France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, l'art de Marie Dubas, première partie. Disparue il y a 50 ans, Marie Dubas a une place beaucoup plus importante dans l'histoire de la chanson que celle que la mémoire lui a réservée. Héritière d'Yvette Guilbert, inspiratrice d'Edith Piaf, Marie Dubas, c'était mille femmes en une. Artiste complète, elle chantait, dansait, jouait, mimait et s'étourdissait dans un kaléidoscope d'émotions, passant du rire aux larmes avec une aisance incroyable. Interprète pure, possédée par l'amour de la scène et du contact direct avec le public, elle éprouvait beaucoup de difficultés, voire de réticence, à se laisser capter par les moyens audiovisuels de son époque. Le disque 78 tours, le cinéma sonore ou la radio, que l'on appelait encore TSF. De sorte qu'elle nous a laissé bien peu de traces de son art. Lina conserve tout de même un moment magique, capté en mars 1939, lors de la fête annuelle de l'Association des étudiants de Paris, à la mairie du 5e arrondissement.
Est-ce qu'on est obligé de chanter dans le micro ici?
Oui, c'est mieux.
Écoutez, si vous faites silence, je crois que j'en ai pas besoin et je pourrais danser. Non, je danse, alors un jour, on va m'entendre gueuler comme ça, puis ça m'entendra. C'est la TSC? Ils m'ont entendu dire ça?
Non, ne le faites pas.
Mais à la TSF, ils vont rien entendre ce soir, vous savez.
Si,
ah non, parce que je gigote. Oh, ça m'embête, j'aime pas ça. Tant pis, ils m'entendront pas. Si je vous chante La femme du roulier, vous la chanterez avec moi?
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Vous dégonflez, je m'en vais.
Cette chanson traditionnelle du répertoire étudiant, créée au 19e siècle, a été reprise par Marie Dubas durant toutes les années 30, au même titre que d'autres refrains du folklore, comme « Les Housards de la Garde »,« Les Filles de l'Orient »,« Les Godillots sont lourds dans le sac »,« Le Retour du Marin » et bien d'autres. Née en septembre 1894 dans le 15e arrondissement de Paris, Marie Dubas a eu très tôt la passion du théâtre, encouragée par ses parents d'origine juive polonaise, ainsi que par ses frères et sœurs musiciens. Beaucoup plus fascinée par la scène que par l'école, Marie n'avait de cesse de monter sur les planches. Une vocation qu'elle expliquera en 1949 dans l'émission Jeunesse Magazine.
Si vous aviez à refaire votre vie, Marie Dubas.
J'ai l'impression que je referais presque exactement la même chose, au point de vue simplement, mais ne serait-ce que du courage qu'il m'a fallu, par exemple, quand j'étais jeune, mes parents n'étaient pas riches, et pour me permettre de me diriger vers l'idéal que... Je rêvais de faire du théâtre, parce qu'à 14-15 ans, déjà, j'étais possédée par cette flamme.
Et en somme, vous avez abandonné cette route par la suite?
Je l'ai abandonnée à cause des circonstances, mais que je vous dise une chose. J'ai été obligée de travailler chez mon père, qui était tailleur, qui avait une entreprise de vêtements. Et comme nous n'étions pas riches, il me payait comme un employé, n'est-ce pas? Et avec l'argent que je gagnais chez lui, j'allais au cours mixte du conservatoire pour étudier, pour me perfectionner, enfin m'enrichir. Mais... je dois certainement déjà à cette formation l'art que je professe même dans le music hall aujourd'hui. Pour moi, par exemple, je fais tout ce que je peux pour faire ce que je crois. Et puis, quand ma conscience est tranquille, eh bien, Inch'Allah.
Eh bien, voici maintenant une vraie chanson de Kafkons. Une noce à Paris dans le 15e arrondissement, le mien. On arrive en père peinard à l'église une heure en retard. Bédo dit tout bas, enfin, je commence à avoir faim. Le curé en vitesse en deux temps dit la messe, le principal c'est la quête, chacun lâche sa galette, les vieux sous qui passent plus les boutons de par-dessus. Puis après l'on s'enfuit de la noire sacristie, c'est des vœux de bonheur, chacun y va de son petit pleur, de la santé, de l'argent, des enfants, boniment. On embrasse les mariés, on se salue jusqu'aux pieds, on se resserre la cuillère, on refait rire la belle-mère, on se relèche la figure et l'on remonte en voiture. Après on va chez le photographe, on n'en peut plus déjà, souriez, on fait une drôle de carafe. Et puis on va au restaurant, alors là c'est le plus épatant. Chacun chante son morceau, oh ma mère que c'est beau. Puis on danse, on foxtrot, on transpire, on se trotte. Les hommes vont au buffet s'en mettre plein le gilet. Les dames ont des malaises, les autres dorment sur les chaises. Et les jeunes gens plus malins se bécotent dans les petits coins.
Mais comment ça se fait en tard? On grognait son plumard.
On salue les mariés, on se rembrasse les pieds, on refait rire les cuillères, on remonte sur la belle-mère, on se resserre la figure et on relèche la voiture. Heureusement que c'est fini, je suis complètement abruti.
Cette chanson a été composée et créée en 1928 par le comique troupier Gaston Ouvrard. Elle est typique du répertoire de café-concert, mode de divertissement né au XIXe siècle qui a précédé l'essor du music-hall. Mais avant d'en arriver à faire précisément du music-hall, Marie Dubas a franchi beaucoup d'étapes. Engagée dès l'âge de 14 ans dans la troupe du théâtre de Grenelle, elle affirmait un talent de comédienne qui faisait la fierté de sa famille. Mais la Grande Guerre mit un terme à ses débuts. Elle découvrit alors le monde des music-halls et des cabarets Montmartrois. Elle apprit à danser, fréquenta de nombreux Elle découvrit alors le monde des music-halls et des cabarets Montmartrois. Elle apprit à danser, fréquenta de nombreux professeurs de chant et se tourna au début des années 20 vers des rôles lyriques qu'elle affectionnait. En 23, elle joua dans L'amour masqué de Sacha Guitry et André Messager avec Yvonne Printemps, puis en 24 dans La danse des libellules de Franz Léard et dans Madame l'archiduc d'Offenbach. En 1925, elle créa au Bouffe parisien l'opérette PLM de Rip et Henri Christinet. Sa carrière de chanteuse a donc des bases solides qu'elle expliquera à la soprano Marcel Gérard, auteur en 1938 de l'ouvrage « À la recherche du chant perdu », titre repris pour cette émission qu'elle produisait en 49.
Eh bien voilà, on est souvent tenté de boire un bon champagne glacé après avoir chanté. Oh, c'est si bon, ça désaltère. Mais c'est aussi mauvais pour l'instrument.
Monsieur Marie Dubas, pouvez-vous nous parler de votre art et donner à ce propos des conseils autorisés?
Oui, avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire. Si je forme un jour des élèves de tour de chant, le premier conseil que je leur donnerai, eh bien, c'est de placer leur voix, de trouver un bon professeur.
Voilà qui est ça.
Bien qu'on en croit souvent, cela ne nuit pas. Et sert premièrement à se faire entendre et comprendre, et deuxièmement, d'éviter le plus longtemps possible les trucages qui, à la longue, deviennent des procédés dont le public se fatigue vite. Parce qu'on a ainsi toujours l'air de chanter la même chanson.
Ah oui, et je connais votre axiome. L'uniformité crée l'ennui.
C'est effectivement à cause de lui que je me suis attachée à fuir cette facilité qu'est le procédé, en m'amusant à créer la difficulté qu'est de passer du doux au grave, du comique au sérieux.
Aimez-vous mieux, voyons, chanter des chansons gaies ou émouvoir?
Eh bien, j'aime également les deux. Mais je dois dire qu'il est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer.
Ah, je pense bien. Tenez, je me souviens d'une confidence que vous m'avez faite un soir où nous chantions ensemble dans un gala.
Je me souviens. J'ai dû vous faire sourire en vous avouant que mon ambition aurait été d'être une grande cantatrice. Car le chant est un des arts que je préfère. Il représente pour moi la plus grande difficulté à atteindre. Et mon plus grand plaisir, ma plus grande distraction, c'est de courir entendre chanter Ninon Vallin, Lotte Lehmann, Loris Melchior, pour me repaître d'un art dont j'aurais tant aimé être la servante. Cependant, j'ai dû reconnaître que le bel canto n'était pas ma corde principale.
Ne parlez pas, Tony. ces grands mots. Quel vice-provignon délire, qu'un se prépare aux oiseaux. Quel vice-provignon délire, qu'un se prépare aux oiseaux. Bon, vous m'appelez cruel, vraiment vous perdez l'esprit. Vous me croyez infidèle, ne faites pas tant de bruit. Quoi vous parlez de vous pendre? Quoi vous parlez de vous pendre? Aux branches de ces ormeaux. Mais vous savez mieux les entres que ça ferait peur aux oiseaux. Mais vous savez bien les entres que ça ferait peur aux oiseaux. Comment puis-je vous aider? Il faudrait vous entendre, vous accorder un baiser. Oh, prenez-en de bien vite, oui, prenez-en de bien vite, et retournez au pipeau. Mieux vaut en finir de suite, car ça ferait peur aux oiseaux. Mieux vaut en finir de suite, car ça ferait peur.
Cette mélodie de 1864, composée par Paul Bernard et devenue un classique du répertoire des salons de musique, a été adoptée en 1927 par Marie Dubas, qui l'a gravée chez Columbia. Elle venait d'effectuer une spectaculaire reconversion à la suite d'un accident vocal survenu fin 26 durant les répétitions d'une opérette de Reinaldo Hahn, Le Temps d'aimer. Après 2 mois de repos et de doute, Marie remonte la pente et retrouve en partie sa voix. Sur les conseils du librettiste Pierre Wolf, elle élabore un tour de chant et obtient un engagement à l'Olympia, le célèbre musical alors dirigé par l'audacieux Paul Franck. Donné en septembre 1927, son tour de chant contrasté lui vaut un triomphe qu'elle-même n'osait espérer. Cette formule lui permet en effet de laisser libre cours à son besoin d'exubérance, comme elle le confiera en 1953 à Lise Elina à l'occasion de ses 25 ans de tour de chant.
Dans le fond, Marie Dubas, vous avez une très grande vitalité et ça frappe tout de suite. Et je crois que vous avez surtout besoin de vivre vos chansons.
C'est presque, pas un exutoire si vous voulez, mais un moyen de sentir la vie d'une façon intense. Par exemple, les vers de Vera Ren m'ont expliqué à moi-même le cas dans lequel je me trouve. Et ces vers sont à peu près ceux-ci. Tous mes ardeurs, caresses, frissons, beauté, folie. Je suis ivre du monde et je me multiplie si fort en tout ce qui m'étonne et m'éblouit que mon cœur en défaille et se délivre en cri. Voilà, je crois que je ne peux pas mieux expliquer mon tour de chant qu'à travers ces vers de Vera Ren.
Et se délivre en cri, et ce premier cri a été Pedro.
Pedro, ça a été la première chanson que l'on m'a apportée dans laquelle moi-même je me suis révélée une nature, enfin, gaie, fantaisiste, dynamique,
ça a été votre
vivante.
Grande chanson, Pedro?
Enfin, la première, si vous voulez, je ne trouve pas que ce soit la meilleure de toutes mes chansons, mais pour le public, elle a cette particularité que c'est la première chanson avec laquelle ils m'ont découverte, si vous voulez, n'est-ce pas?
Vous la chantiez, vous la dansiez, vous
je
la mimiez?
Je la danse, je la crie, je traverse la scène, enfin, je m'amuse dans cette chanson.
Tour de chant, Martin Pennet, France Musique.
Des dragons de Kéric, il y en a pas 10, pas 9, pas 8, pas 7, même pas 6. Et jusqu'à Saint-Sébastien, il y en a pas 5, pas 4, pas 3. Oui, Pedro, c'est le roi. Ce n'est pas à Pampelune que je connais mon chéri, mais c'est en cherchant fortune près du café de Madrid. Quand il me dit, ma brunisse, si on faisait ton aimant, je pensais qu'il avait 7 ans. Au change, ça faisait 6 francs. Pedro, Pedro, j'étais dans le sang, j'étais dans la chair, j'étais dans la peau. Pedro, 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 je sautais pour toi, je devais un marteau, mon joli pépé, 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 pépé,
Pedro est toujours dans votre répertoire actuel.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui est le plus amusant. Et c'est ce qui m'empêche de vieillir à mes propres yeux, songer que je chante encore. Pedro fait toujours partie de mon répertoire. Alors que je la chantais il y a 25 ans, c'est pour ça que j'ai pas senti les années passées. Je fais les mêmes gestes, les mêmes danses.
Et de grenades, il y en a, il y en a des rosses, comme Pedro. J'aime son petit air bravache quand il va tuer un taureau. Et même si c'est une vaca, j'en ai des frissons dans le dos. Et quand il me dit mon ange, mais y'en vais ta fleur d'oranger, je trouve ce désir étrange de la part d'un étranger. Pedro, Pedro, c'était dans les sangs, c'était dans la chambre, c'était dans la peau. Pedro, Pedro, tout ça tu voudras, je deviens mère tombe, je lui pépé, prémé, pépé, prémé, pépé, prémé, pépé, prémé, pépé, Pedro. Le roi lui passe de blanc et du tango. C'est lui, Pedro, c'est lui le plus costaud. Oui, toutes les femmes veulent danser avec lui. Mais il n'est qu'à moi, toute seule. Je l'ai le jour et même la nuit. Caramba, je suis jalouse! Jalouse et de mon trésor, et tout comme une ventouse, je suis collée à son corps. Pedro, Pedro, tu me prends mon sang, tu me prends ma chair, tu me laisses la peau. Pedro, Pedro, c'est à cause de toi que je viens Martin, j'ai lu pépé, prémé, pépé, prémé, pépé, prémé, pépé, prémé, pépé. Pedro!
Pedro, succès de Marie Duba que nous venons d'entendre en 1949 lors d'un gala, est une parodie de chansons espagnoles due au parolier Jean Rodor. Créée par Alibert au début de l'année 1927, elle a été reprise quelques mois après par Marie lorsqu'elle décida de se composer un tour de chant destiné au musical. Après l'Olympia, Marie Duba rejoue l'opérette à l'Eldorado, la revue au Folies Wagram, puis au Folies Marigny, et chante surtout à l'Empire, le grand musical aujourd'hui disparu de l'avenue de Wagram, en septembre 1928. Puis elle participe à des revues au Concert Mayol, au Casino de Paris, où une fois de plus, son tour de chant en forme de douche écossaise fait merveille. Pour commémorer les 30 ans de la disparition de Marie Duba sur France Culture en 2002, son fils François Bélair m'avait expliqué la diversité du répertoire de la fantaisiste et son caractère inclassable dans le monde de la chanson de l'époque.
C'est-à-dire que le tour de chant qu'elle avait constitué, je crois, a toujours plus et a su séduire effectivement toutes les catégories du public dans les tranches d'âge et dans les classes sociales les plus étendues. En réalité, c'est en ça d'ailleurs qu'elle a été une novatrice, je crois, c'est qu'elle a fait vraiment exploser en tant que femme interprète, elle a fait exploser les catégories qui étaient issues du CAFCON, c'est-à-dire qu'il y avait un genre, chaque interprète avait un genre. Que ce soit pour une femme, ça pouvait être une chanteuse, la gommeuse, la romancière qui chantait des romances, ou bien la goualeuse, ou bien la chanteuse réaliste. Voilà, chacun avait son genre. Elle a voulu exploser tout ça, elle a voulu faire sortir de ses carcans. Et quand on lui a donc demandé plus tard quel était son genre, justement, puisqu'elle n'en avait pas, elle se définissait d'une manière un peu cocasse en disant qu'elle était une comique sentimentale. Mais elle se considérait comme une artiste dramatique, à l'origine, dramatique et lyrique. Et quand on lui demandait quel était son genre, entre guillemets, elle disait « moi je n'ai pas un genre particulier, ou alors si vraiment je dois avoir un genre, disait-elle avec un petit clin d'œil, eh bien disons que j'ai le genre humain. » Et comme ça, ça lui permettait évidemment d'aller d'un extrême à l'autre.
Qu'est-ce que j'ai, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai de rêve fou, c'est une farandole. Ainsi j'aimerais, c'est singulier, à me promener en gondole, ou simplement avec un gondolier. Et je voudrais, pour une sérénade, donner le baiser qu'on vient mendier, car je voudrais être à Grenade, ou simplement avec un grenadier. Mais qu'est-ce que j'ai, mais qu'est-ce que j'ai, je n'ai jamais été comme ça. Je sens que mon cœur est dérangé, que ça me paraît les bras en l'air. Vois bocagère du verger, baise bergère ton berger. On s'exagère le danger, oui, oui. Mais qu'est-ce que j'ai, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai, c'est fou, c'est fou, mais qu'est-ce que j'ai? Je voudrais être une beauté sans rivale, la fiancée du timbalier, et chevaucher sur une cavale, sur une cavale ou sur un cavalier. Bien que je sois une noble demoiselle, je fais le rêve roturier d'aller danser sous une tonnelle, sous une tonnelle ou sous un tonnelier. Mais qu'est-ce que je suis, mais qu'est-ce que j'ai? Je n'ai jamais été comme ça, je n'ai plus aucun préjugé, troulalala et troulala, sans de mes pères voltiger, hop là j'espère déranger, faites-vous la paire préjugée, allez oui, qu'est-ce que j'ai, mon Dieu, mais quelle horreur, voyons, mais qu'est-ce que j'ai, mais c'est fou, ça fout, ça fout, mais qu'est-ce que j'ai?
Et puis vraiment, elle a toujours considéré, si vous voulez, que la chanson, dès l'instant où elle a vu Yvette Guilbert sur scène, elle a compris que la chanson était un art majeur et elle a voulu l'exercer dans ce même esprit. Et je crois que c'est aussi ça, c'est cette conception de la chanson comme art majeur qu'elle a transmis également par l'expression de son art à elle, à Edith Piaf, quand Piaf l'a vue sur scène pour la première fois. Vraiment, pour elle, elle vivait pour ses chansons, elle ne vivait que pour ses chansons, c'est vrai, pendant 30 ans, en tout cas pendant la période où moi je l'ai connue, c'est-à-dire pendant les 20 premières années de ma vie sur scène, je dois dire que je ne l'ai vue qu'occupée de ses chansons, que tout était... conditionné par son métier, par son art. Et quand on lui apportait une chanson et qu'on lui disait, vous savez, j'en ai encore une ici, mais celle-là, elle n'est pas pour vous, montrez-la-moi, disait-elle, parce que c'était celle-là qui l'intéressait le plus. Toutes les chansons qu'on lui apportait, qui étaient censées être faites pour elle, étaient en général souvent que des ressuscés d'anciens succès, et ça ne l'intéressait pas.
Mon amour n'est pas un tocard, ni ce qu'on appelle un malabar, mais non, il a vu le jour rue Saint-Vincent, il a un éousse qui pleut tant, mais oui. Il ne se vante pas d'être affranchi, mais y'en a pas qu'il soit plus que lui. Il n'est pas beau, il n'est pas costaud, mais malgré tous ses défauts, quand je danse avec lui, ce que je ressens, c'est inouï. Des frissons me parcourent la peau, ça me fait froid et puis ça me fait chaud.
La chanson, par exemple, que l'on fredonne tous quand on danse, « Quand je danse avec lui », est un modèle de la chanson expressive.
Oui, en effet. Elle a été surtout visuelle, n'est-ce pas ? La musique est jolie, mais enfin, de danser et d'exprimer une tendresse, une douceur infinie dans les sentiments, que bien souvent la voix ne permet pas, parce que le clavier vocal a des limites quand même, tandis que le visage, les attitudes, la danse, ça augmente et ça apporte beaucoup de choses. Et c'est ce répertoire-là que j'ai choisi, dans lequel je me sentais le plus à l'aise, enfin.
Comme elle le confiait en 1953 à Lise et Lina, Marie Duba aimait particulièrement cette chanson écrite par Gabriello qu'elle avait créée en novembre 1929 au Music Hall de l'Empire et enregistrée plus tard chez Odéon. L'art d'interprète de Marie Dubas a suscité bien des vocations, pour preuve cette confidence que Colette Renard m'avait faite en 2002 pour France Culture.
C'est à partir de 4 ans, de l'âge de 4 ans, que j'ai eu envie de chanter. Et je crois que c'est en voyant cette femme sur scène que je me suis dit pour la première fois, quand je serai grande, c'est ce que je ferai. Voilà ce que je ferai. Je me souviens d'une robe blanche. Je me souviens d'une femme qui arpentait la scène et d'une robe blanche qui virevoltait autour. C'était très beau.
C'était une jeune fille qui n'avait pas 15 ans.
C'était une jeune fille qui n'avait pas 15 ans.
Elle s'était endormie au pied d'un rosier blanc. Son voile parti, son voile parlant. Son voile qui volait, son voile qui volait au vent.
Qui volait, ronde traditionnelle québécoise, a été popularisée en France fin 1930 par l'édition chez Columbia d'un disque 78 tours du chanteur Ovila Légaré. Elle a aussitôt séduit Marie Dubas, qui, comme son modèle Yvette Guilbert, aimait mélanger des chansons de différentes époques, y compris des traditionnelles.
À l'époque où elle-même a constitué son tour de chant, naturellement, elle avait comme modèle Yvette Guilbert, mais Yvette Guilbert était une artiste qui était statique et qui était une artiste qui était quand même très éloignée d'elle, d'un certain point de vue, beaucoup plus docte. Mais je crois qu'en réalité, c'est chez les hommes, et c'est particulièrement chez Georgius, sans doute, qu'elle a dû trouver une parenté très grande, car Georgius avait une manière de s'extérioriser qui était très grande, mais c'était effectivement un domaine qui n'avait pas été abordé par les femmes. Et là, son audace, si je puis dire, a été sans doute, avec sa propre nature et son propre tempérament, d'oser faire au féminin ce que Georgius ou Chevalier avait peut-être fait au masculin. Et ça, en ça, ça a été un apport et une vraie révolution. Car ça a saisi les gens de voir qu'une femme osait aller d'un bout de la scène à l'autre, danser ses chansons, car c'était ça aussi qui était une innovation, autant qu'elle les chantait, les mimait, les jouait avec tout son corps, les jouait avec ses jambes, ses bras. C'était effectivement une sorte de gestuelle totale qui lui permettait, puisqu'elle n'avait pas à l'époque l'obligation de rester devant un micro qui n'existait pas, et qu'elle avait une voix suffisamment puissante venant de l'opérette pour se faire entendre dans des salles très grandes sans difficulté, c'est avec ça qu'elle est arrivée à constituer la singularité de son numéro chanté.
Signée du chansonnier Paul Colline, cette chanson truculente semble avoir été écrite sur mesure pour Marie Dubas, qui en faisait un morceau de bravoure de ses tours de chant en 1929 et 1930. L'année suivante verra la création d'un titre majeur écrit par Francis Carco, Le Doux Caboulot, qui élargira la palette de l'interprète vers l'univers poétique. C'est ce que nous verrons dans la prochaine émission de cette série consacrée à l'art de Marie Dubas. Tour de chant, une émission de Martin Pennet, avec le concours de Dorothée Goll à la préparation, Stéphane Touvenin à la technique, Olivier Guérin à la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.